Aristote, Métaphysique, livre 4, chapitre 4. Certains philosophes, avons-nous dit, prétendent que la même chose peut être et n'être pas, et qu'on peut concevoir simultanément les contraires. Telle est l'assertion de la plupart des physiciens. Quant à nous, nous venons de reconnaître qu'il était impossible d'être et de n'être pas en même temps. Et c'est à cause de cette impossibilité que nous avons déclaré que notre principe est le principe certain par excellence. Il est aussi quelques philosophes qui, par ignorance, veulent démontrer ce principe. Car c'est de l'ignorance de ne pas savoir distinguer ce qui a besoin de démonstration de ce qui n'en a pas besoin. Il est absolument impossible de tout démontrer. Il faudrait pour cela aller à l'infini, de sorte qu'il n'y aurait même pas de démonstration. Et s'il est des vérités dont il ne faut pas chercher la démonstration, qu'on nous dise quel principe, plus que le principe en question, se trouve dans un pareil cas. On peut toutefois établir, par voie de réfutation, cette impossibilité des contraires. Il suffit que celui qui conteste le principe attache un sens à ses paroles. S'il n'y en attache aucun, il serait ridicule de chercher à répondre à un homme qui ne peut dire la raison de rien puisqu'il n'a aucune raison. Un tel homme, un homme privé de raison, ressemble à une plante. Et établir par voie de réfutation, c'est autre chose, selon moi, que démontrer. Celui qui démontrerait ce principe ferait, ce semble, une pétition de principe. Mais qu'on essaie de donner un autre principe comme cause de celui-là, alors il y aura réfutation, mais non pas démonstration. Pour se débarrasser de toutes les arguties, il ne suffit pas de penser ou de dire qu'il existe ou qu'il n'existe pas quelque chose, car on pourrait croire que c'est là une pétition de principe. Il faut désigner un objet et à soi-même et aux autres. Il le faut même nécessairement, puisqu'on donne un sens aux paroles, et que l'homme, pour qui elles n'auraient pas de sens, ne pourrait ni s'entendre avec lui-même, ni parler à un autre. Si l'on accorde ce point, alors il y aura démonstration, car il y aura déjà quelque chose de déterminé. Mais ce n'est pas celui qui démontre qui est cause de la démonstration, c'est celui qui subit la démonstration. Il détruit d'abord tout langage, et il admet ensuite qu'on peut parler. Enfin, celui qui accorde que les paroles ont un sens, accorde aussi qu'il y a quelque chose de vrai, indépendamment de toute démonstration. De là, l'impossibilité des contraires. Avant tout, cette vérité est donc hors de doute que le nom signifie que telle chose est ou qu'elle n'est pas, de sorte que rien absolument ne saurait être et n'être pas de telle manière. Admettons d'ailleurs que le mot « homme » désigne un objet, soit cet objet animal à deux pieds. Je dis qu'alors, ce nom n'a pas d'autre sens que ceci. Si l'animal à deux pieds est l'homme, et que l'homme soit une essence, l'essence de l'homme, c'est d'être un animal à deux pieds. Il est même indifférent pour la question qu'on attribue au même mot plusieurs sens, pourvu que d'avance on les ait déterminés. Il faut alors, à chaque emploi du mot, joindre un autre mot. Supposons par exemple qu'on dise « Le mot « homme » signifie non pas un objet unique, mais plusieurs objets. Et chacun de ces objets a un nom particulier, l'animal, le bipède. Mettez un plus grand nombre d'objets encore, mais déterminez le nombre. Et joignez l'expression propre à chaque emploi du mot. Si l'on n'ajoutait pas l'expression propre si l'on prétendait que le mot a une infinité de significations. Il est évident qu'on ne pourrait plus s'entendre. En effet, ne pas signifier un objet un, c'est ne rien signifier. Or, si les mots ne signifient rien, il est de toute impossibilité pour les hommes de s'entendre entre eux, et, disons plus, de s'entendre avec eux-mêmes. Si la pensée ne porte pas sur un objet un, toute pensée est impossible. Mais, si la pensée est possible, il faut bien donner un nom déterminé à l'objet de la pensée. Le nom, comme nous l'avons dit plus haut, désigne donc l'essence et désigne un objet unique. Par conséquent, être homme ne saurait signifier la même chose que n'être pas homme. Si le mot homme signifie une nature déterminée et non pas seulement les attributs d'un objet déterminé. En effet, les expressions être déterminé et attributs d'un être déterminé n'ont pas pour nous le même sens. S'il n'en était pas ainsi, les mots musicien, blanc et homme signifieraient une seule et même chose. Alors, tous les êtres seraient un seul être, car tous les mots seraient synonymes. Enfin, ce n'est que sous le rapport de la ressemblance du mot que la même chose pourra être et n'être pas. Par exemple, si ce que nous appelons « homme », d'autres l'appelaient « non-homme ». Mais la question n'est pas de savoir s'il est possible que la même chose soit et ne soit pas en même temps l'homme nominalement, mais si elle peut l'être réellement. Si « homme » et « non-homme » ne signifiaient pas des choses différentes, évidemment, n'être pas homme n'aurait pas un sens différent d'être homme. Ainsi, être homme serait n'être pas homme. Il y aurait identité. Car cette double expression, représentant une notion unique, signifie un objet unique, de même que vêtements et habits. Or, s'il y a identité, être homme et n'être pas homme signifie objet unique. Et nous avons montré que ces deux expressions ont un sens différent. Il est donc nécessaire de dire, s'il y a quelque chose de vrai, qu'être homme, c'est être un animal à deux pieds, car c'est là le sens que nous avons donné au mot « homme ». Et si cela est nécessaire, il n'est pas possible qu'au même instant, ce même être ne soit pas un animal à deux pieds. Cela signifierait qu'il est nécessairement impossible que cet être soit un homme. Il n'est donc pas possible qu'il soit vrai en même temps de dire que le même être est un homme et qu'il n'est pas un homme. Le même raisonnement s'applique aussi dans le cas contraire. Être homme et n'être pas homme signifie donc des choses différentes. D'ailleurs, être blanc et être homme ne sont pas la même chose. Or, les deux autres expressions sont plus contradictoires. Elles diffèrent donc encore plus par le sens. Que si l'on va jusqu'à prétendre qu'être blanc et être homme signifie une seule et même chose, nous répéterons ce que nous avons déjà dit auparavant. Il y aura identité de toutes choses et non pas seulement des opposés. Or, si cela n'est pas admissible, il s'ensuit que notre proposition est vraie. Il suffit que notre adversaire réponde à la question. En effet, rien n'empêche que le même être soit homme et blanc et une infinité d'autres choses encore. Mais, de même que si l'on pose cette question, est-il ou n'est-il pas vrai de dire que tel objet est un homme ? Il faut que le sens de la réponse soit déterminé et qu'on n'aille pas ajouter que l'objet est blanc, grand, car le nombre des accidents étant infini, on ne peut les énumérer tous. Or, il faut ou les énumérer tous ou n'en énumérer aucun. De même encore, quoique le même être soit une infinité de choses, ainsi homme, non-homme, etc., à cette question « est-ce là un homme ?», il ne faut pas qu'on réponde qu'il est encore en même temps non-homme, à moins qu'on ajoute à la réponse tous les accidents, tout ce que l'objet est et n'est pas. Or, agir ainsi, ce n'est plus discuter. D'ailleurs, admettre un pareil principe, c'est détruire complètement toute substance et toute essence. On est forcé alors de prétendre que tout est accident. Il faut nier l'existence de ce qui constitue l'existence de l'homme et l'existence de l'animal. Car si ce qui constitue l'existence de l'homme est quelque chose, ce quelque chose n'est ni l'existence du non-homme, ni la non-existence de l'homme. Ce sont là, au contraire, des négations de ce quelque chose, puisque ce qu'il signifiait, c'était un objet déterminé, et que cet objet était une essence. Or, signifier l'essence d'un être, c'est signifier l'identité de son existence. Si donc, ce qui constitue l'existence de l'homme, c'est ce qui constitue l'existence du non-homme, ou ce qui constitue la non-existence de l'homme, il n'y aura pas d'identité. De sorte qu'il faut bien que ceux dont nous parlons disent que rien n'est marqué du caractère de l'essence et de la substance, mais que tout est accident. En effet, voici ce qui distingue l'essence de l'accident. La blancheur chez l'homme est un accident. Et la blancheur est un accident chez l'homme parce qu'il est blanc, mais n'est pas la blancheur. Si l'on dit que tout est accident, il n'y a plus de genre premier, puisque toujours, l'accident désigne l'attribut d'un sujet. Il faut donc que l'on prolonge à l'infini la chaîne des accidents. Or cela est impossible. Il n'y a même jamais plus de deux accidents attachés l'un à l'autre. L'accident n'est jamais un accident d'accident que quand ces deux accidents sont les accidents du même sujet. Prenons pour exemple blanc et musicien. Musicien n'est blanc que parce que l'un et l'autre sont les accidents de l'homme. Mais Socrate n'est pas musicien à ce titre que Socrate et musicien sont les accidents d'un autre être. Il y a donc à distinguer deux cas. Pour tous les accidents qui sont chez l'homme, comme est ici la blancheur dans Socrate, il est impossible d'aller à l'infini. Par exemple, à Socrate blanc, il est impossible qu'il s'attache encore à un autre accident. En effet, une chose une n'est pas le produit de la collection de toutes choses. Le blanc ne peut même pas avoir un autre accident, par exemple le musicien, car musicien n'est non plus l'attribut de blanc que blanc n'est celui de musicien. Voilà pour le premier cas. Nous avons déterminé qu'il y en avait encore un autre, dont le musicien dans Socrate était ici l'exemple. Dans ce dernier cas, l'accident n'est jamais accident d'accident. Il n'y a que les accidents de l'autre genre qui puissent l'être. Ainsi donc, on ne peut dire que tout est accident. Il y a donc quelque chose de déterminé, quelque chose qui porte le caractère de l'essence. Et s'il en est ainsi, nous avons démontré l'impossibilité de l'existence simultanée d'attributs contradictoires. Ce n'est pas tout. Si toutes les affirmations contradictoires relatives au même être sont vraies en même temps, il est évident que toutes les choses seront alors une chose unique. Une galère, un mur et un homme doivent être la même chose si l'on peut affirmer ou nier tout de tous les objets, comme sont forcés de l'admettre ceux qui adoptent la proposition de Protagoras. En effet, si l'on pense que l'homme n'est pas une galère, évidemment, l'homme ne sera pas une galère. Et par conséquent, il est une galère puisque l'affirmation contraire est vraie. Nous arrivons ainsi à la proposition d'Anaxagore. Toutes les choses sont ensemble, de sorte qu'il n'existe rien qui soit vraiment un. L'objet des discours des philosophes en question, c'est donc, ce semble, l'indéterminé. Et quand ils croient parler de l'être, ils parlent de non-être, car l'indéterminé, c'est l'être en puissance et non en acte. Ajoutez à cela que ceux dont nous parlons doivent aller jusqu'à dire qu'on peut affirmer ou nier également tout de toute chose. Il serait absurde en effet qu'un être eût en lui sa propre négation et n'y eût pas la négation d'un autre être qui n'est pas en lui. Je dis par exemple que s'il est vrai de dire que l'homme n'est pas un homme, évidemment, il est vrai aussi de dire que l'homme n'est pas une galère. Si nous admettons l'affirmation, il nous faut donc aussi admettre la négation. Admettrons-nous au contraire la négation plutôt que l'affirmation? Mais alors, la négation de la galère se trouve dans l'homme plutôt que la sienne propre. Que s'il y a en lui cette dernière, il a donc celle de la galère, et s'il a celle de la galère, il a donc aussi l'affirmation opposée. Outre cette conséquence, il faut encore que ceux qui admettent l'opinion de Protagoras soutiennent qu'on n'est forcé ni à l'affirmation ni à la négation. En effet, s'il est vrai que l'homme est aussi le non-homme, il est évident que ni l'homme ne saurait exister ni le non-homme, car il faut admettre en même temps les deux négations de ces deux affirmations. Que si l'on fait de la double affirmation de leur existence une affirmation unique, composée de ces deux affirmations, il faut admettre la négation unique qui lui est opposée. Ce n'est pas tout. Ou bien il en est ainsi de toute chose, et le blanc est aussi le non-blanc, et l'être le non-être, et de même pour toutes les autres affirmations et négations. Ou bien, le principe a des exceptions. Il s'applique à certaines affirmations et négations et ne s'applique pas à d'autres. Admettons qu'il ne s'applique pas à toutes. Alors, pour celles qui sont exceptées, il y a certitude que, s'il n'y a pas d'exception, alors il faut, comme tout à l'heure, ou bien que tout ce qu'on affirme, on le nie en même temps, et que tout ce qu'on nie, en même temps, on l'affirme. Ou bien que d'un côté, tout ce qu'on affirme, en même temps, on le nie, tandis que de l'autre, au contraire, tout ce qu'on nie, on ne l'affirmerait pas en même temps. Mais dans ce dernier cas, il y aurait quelque chose n'existant réellement pas, et ce serait là une opinion certaine. Or, si le non-être est quelque chose de certain et de connu, l'affirmation contraire doit être plus certaine encore. Mais si tout ce qu'on nie, on l'affirme également, l'affirmation est donc nécessaire. Et alors, ou bien les deux termes de la proposition peuvent être vrais chacun séparément. Par exemple, je dis que ceci est blanc, puis après, je dis que ceci n'est pas blanc, ou bien ils ne sont pas vrais. S'ils ne sont pas vrais prononcés séparément, celui qui les prononce ne les prononce pas. Il n'y a rien absolument. Or, comment des êtres non existants peuvent-ils ou parler ou marcher? Et puis, toutes les choses seraient alors une seule chose, comme nous l'avons dit plus haut. Entre un homme, un dieu et une galère, il y aurait identité. Or, s'il en est de même pour chaque objet, un être ne diffère pas d'un autre être. Car s'il différait, cette différence serait une vérité et un caractère propre. Pareillement, si l'on peut, en distinguant, dire la vérité, il s'ensuit ce que nous venons de dire, et de plus que tout le monde dirait la vérité, et que tout le monde mentirait, et qu'on avouerait soi-même son mensonge. D'ailleurs, évidemment, l'opinion de ces hommes ne mérite pas un examen sérieux. Leurs paroles n'ont aucun sens, car ils ne disent pas que les choses sont ainsi ou qu'elles ne sont pas ainsi, mais qu'elles sont et ne sont pas ainsi en même temps. Puis après vient la négation de ces deux termes, et ils disent qu'il n'en est ni ainsi, ni pas ainsi, mais qu'il en est ainsi et pas ainsi. Sinon, il y aurait déjà quelque chose de déterminé. Enfin, si lorsque l'affirmation est vraie, la négation est fausse, et si quand celle-ci est vraie, l'affirmation est fausse, il n'est pas possible que l'affirmation et la négation de la même chose soient marquées en même temps du caractère de la vérité. Mais peut-être répondra-t-on que c'est là ce qui est posé en principe. Est-ce donc à dire que celui qui pensera que telle chose est ainsi, ou qu'elle n'en est pas ainsi, sera dans le faux, tandis que celui qui tiendra l'un et l'autre langage dira la vérité. Or, si le dernier dit en effet la vérité, qu'est-ce à dire, sinon que telle nature entre les êtres dit la vérité? Mais, s'il ne dit pas la vérité, et que ce soit plutôt celui qui dit que la chose est de telle sorte qui dit la vérité, comment alors pourrait-il y avoir et ces êtres et cette vérité en même temps qu'il n'y aurait ni ces êtres ni cette vérité? Si tous les hommes disent également faux et vrai, de tels êtres ne peuvent ni articuler un son ni discourir, car en même temps ils disent une chose et ne la disent pas. S'ils n'ont conception de rien, s'ils pensent et ne pensent pas tous à la fois, en quoi diffère-t-il des plantes? Il est donc de toute évidence que telle n'est la manière de penser de personne, pas même de ceux qui avancent cette proposition. Pourquoi, en effet, se mettent-ils en route pour mégare et au lieu de cela, ne restent-ils pas au repos dans la conviction qu'ils marchent? Pourquoi, s'ils rencontrent un puits ou un précipice dans leur promenade du matin, ne s'y dirigent-ils pas en droite ligne et paraissent-ils prendre leurs précautions, comme s'ils jugeaient qu'il n'est pas également mauvais et bon d'y tomber? Il est donc évident qu'ils pensent que telle chose est meilleure, telle autre plus mauvaise. Et, s'ils ont cette pensée, nécessairement ils conçoivent aussi que tel objet est un homme et que tel autre n'est pas un homme, que ceci est doux, que cela n'est pas doux. En effet, ils ne recherchent pas également toute chose et ne donnent pas à tout la même valeur. S'ils croient qu'il est de leur intérêt de boire de l'eau, de voir un homme, alors ils se mettent en quête de ces objets. Et pourtant, il le faudrait si l'homme et le non-homme étaient identiques l'un à l'autre. Mais, comme nous l'avons dit, il n'y a personne qu'on ne voit éviter telle chose, n'éviter pas telle autre. De sorte que tous les hommes ont, se semble, l'idée de l'existence réelle, sinon de toute chose, au moins du meilleur et du pire. Mais, quand même l'homme n'aurait pas la science, quand il n'aurait que des opinions, il faudrait qu'il s'appliquât beaucoup plus encore à l'étude de la vérité, comme le malade s'occupe plus de la santé que l'homme qui se porte bien. Car celui qui n'a que des opinions, si on le compare à celui qui sait, est par rapport à la vérité dans un état de maladie. D'ailleurs, en supposant même que les choses sont et ne sont pas de telle sorte. Le plus et le moins existeraient encore dans la nature des êtres. Jamais on ne pourra prétendre que 2 et 3 sont également des nombres pairs. Et celui qui pensera que 4 et 5 sont la même chose n'aura pas une pensée fausse d'un degré égal à celle de l'homme qui admettrait que 4 et 1000 sont identiques. S'il y a une différence dans la fausseté, il est donc évident que le premier pense une chose moins fausse. Par conséquent, il est plus dans le vrai. Si donc ce qui est plus une chose, c'est ce qui en approche davantage. Il doit y avoir quelque chose de vrai, dont ce qui est plus vrai, plus proche. Et même ce vrai n'exista-t-il pas, déjà du moins, y a-t-il des choses plus certaines et plus rapprochées de la vérité que d'autres ? Et nous voilà débarrassés de cette doctrine effrontée qui condamnait la pensée à n'avoir pas d'objet déterminé.